RTL. Et dans un instant, retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier.
RTL, il est 3h.
Jusqu'à 4h30, vous écoutez les meilleurs moments des grosses têtes sur RTL.
Dans le Parisien, j'ai vu cette annonce immobilière, une page entière consacrée à un appartement de 110 mètres carrés. C'est dans Saint-Germain-des-Prés. Alors, je vous donne même l'adresse exacte, puisque c'est au 24 rue Visconti. Mm-hmm. C'est une rue très étroite, la rue Visconti. Ah, vous connaissez
Non, je sais ce que vous allez dire.
Ah, vous faites
Johan... Je fais Johan Rioux. Ah, oui. Mais je trouve que je vous laisse finir. Je vous laisse finir.
Pourquoi cet appartement est un peu plus cher, on va dire, que le marché dans le quartier?
Il est à 2,6 millions.
Ah, ouais, 2,6 millions d'euros, l'appartement de 130 mètres carrés au 24 rue Visconti, parce que
Jean Racine y a habité.
Ah. Excellente réponse de Carina Marimont. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'il y a un petit mensonge là quand même.
Bon, ils ont rasé l'immeuble depuis, ils en ont fait un autre.
Ah, alors,
c'est à cet endroit mais pas dans l'immeuble.
Alors ils vous disent, oui, là, Jean Racine, ouais. Alors, t'as l'impression que t'achètes l'appartement où Racine
pas du tout.
A écrit les fourberies de Scapin.
C'est ça, ouais. Ouais, ouais. C'est fou ça alors.
Et en fait c'est juste l'adresse et le numéro de la rue, mais l'immeuble où lui a habité a été détruit.
A été détruit depuis longtemps.
Donc oui, ça a aucun intérêt, je veux dire alors.
Alors que l'immeuble où Molière a grandi, on a encore la structure ancienne.
Isolation chauffage et une isolation extérieure qui était déjà près chez nous. Sur l'immeuble que moi j'avais, il y avait déjà une isolation. Sur tous les autres immeubles du bailleur, ça c'était pas existant. Mais je sais que sur mes immeubles, c'était déjà existant, ça. Il y avait déjà une isolation. Les travaux, ils sont complètement incohérents. Il y a des gens qui se plaignaient des infiltrations. Il y a beaucoup d'infiltrations d'eau. Les fenêtres qui avaient été déjà changées par le passé, ça avait été tellement mal posé que l'eau rentrait dedans. Les plates étaient complètement vert de gris, moisies. Tout partait en lambeaux là-dedans. Et quand je vous disais qu'ils minimisent les choses, ils font vraiment les choses au minimum, quoi. Donc, ils ont fait plus du tape à l'œil pour attirer les pigeons, parce que ces structures-là commençaient à perdre leur attrait. Les gens, beaucoup de mineurs qui étaient dedans, ou à l'époque, tout ça, avaient quitté les endroits où ils étaient partis, où ils avaient pris des maisons, construit leurs maisons. Donc, les appartements étaient vides. Donc, pour redonner de l'activité à ces immeubles-là, donc ils faisaient une campagne de remise en peinture, leur redonner un petit coup de semblant de neuf, mais c'est des travaux dérisoires, quoi. Le fond de problème n'est pas résolu sur ce qui devrait être fait. Donc, on a quand même eu les installations de chauffage. Donc, ça, c'était soi-disant... C'est un agrément en plus, puisque vous êtes plus tributaire de gérer vous-même votre chauffage. Mais derrière, ça pose d'autres problèmes. Les isolations étaient... C'est ce qu'on parle beaucoup, là, aujourd'hui, nouveau dans l'actualité, de supprimer les aides à la rénovation qui sont apportées. Et puis, ces propres aides, là, le bailleur en bénéficie et ils font du n'importe quoi avec, quoi. Les diagnostics de... Les diagnostics sur les immeubles ne reflètent pas la réalité.
Oui, mais donc, du coup, vous avez essayé de vous battre contre un bailleur qui était beaucoup plus fort que vous, au final. C'est ce que vous nous expliquez.
De toute manière, c'est un bailleur qui dépend de la Caisse des dépôts. Donc, c'est un bailleur d'État qui est sous la tutelle de l'État.
Oui.
Et qui fait partie. Donc, je me bats, j'arrête pas de le dire maintenant, je me bats contre l'État. Et donc, quand ces gens-là, vous leur mettez en avant qu'ils font du n'importe quoi, donc ils vous font savoir. Alors, le pire, c'est que ce bailleur, il se vante d'être un bailleur, d'avoir le statut de bailleur social. Mais quand je vous disais qu'il y a eu à l'époque, quand ces ensembles d'appartements ont été cédés à d'autres, étaient repris par deux, c'est des choses que j'ai lues par après, qui ont déjà été dénoncées par d'autres personnes de moi. Là-dedans, c'est une vaste magouille, un vaste chamboulement au niveau de toutes ces grosses structures.
Oui.
Et ça soulève des gros mouvements d'argent, d'affairisme sous-entendu sur d'autres choses. Et donc, il s'avère que ce bailleur social, il a été intégré dans un gros groupe qui était déjà en place sur le territoire, mais tout en gardant un statut de bailleur privé, puisqu'il est sous statut d'entreprise et il est dans le cadre d'une SAS. Donc une SAS, c'est une société par action simplifiée. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'actionnaires là-dedans. C'est pas vraiment pour moi le bon terme juridique ou pour pouvoir se prétendre vouloir faire bon. Du social.
D'accord. Donc au final, vous avez été expulsé.
Donc j'ai été expulsé, le jugement n'a pas été rendu en ma faveur.
D'accord. Et donc du coup, en fait, vous avez été expulsé à quelle date là ? Il y a combien de temps ?
J'ai été expulsé au mois d'octobre 2020.
Octobre 2020, et vous êtes dans la rue depuis octobre 2020 ?
Tout à fait, oui.
Et vous vivez comment là maintenant ? Vous vivez où ? Vous vivez dans quelle région ? Vous m'avez dit que vous étiez dans l'Est hier.
Ouais, dans l'Est, oui.
Et donc, comment vous arrivez à vous dormez dans la rue ou vous dormez dans des foyers ?
Non, je veux pas avoir affaire à ces gens-là. J'ai vu tout le. De toute façon, il y a eu plein de ratés là, dans cette procédure-là. Normalement, déjà, on n'a pas à vous mettre dans la rue de cette façon. On est venu me déloger de chez moi. De toute façon, je l'avais dit que je ne sortirais pas de l'appartement parce que je mettais en avant que j'avais des reproches et que je ne m'estimais pas responsable.
Et que vous n'étiez pas en tort.
Oui. Que j'étais pas en tort. On a toujours. Je ne suis pas.
Non, chacun a des torts dans cette histoire.
Chacun a ses torts, mais bon, ce n'est pas moi qui étais l'initiateur des problèmes que je subissais. Et pour moi, je mettais en avant que le bailleur ne faisait rien, ne résolvait pas les problèmes. Je l'ai dénoncé à travers beaucoup de courriers. Mon assurance que j'avais à l'époque a quand même daigné à l'époque. Il y a eu beaucoup de changements des personnes qui sont parties en me disant que c'était de ma faute, qu'ils ne restaient pas dans l'immeuble. Et de nouveau, une histoire, problème avec les animaux. Une personne qui vient s'installer nouveau au-dessus de chez moi, qui vient avec ses chiens. La journée, elle n'était pas là, les chiens qui hurlaient la mort. Donc là, j'ai fait des enregistrements. Là, je commençais à peaufiner ma défense en apportant des preuves. J'ai fait des courriers à la mairie en mettant en avant en sollicitant l'autorité de la ville. Bien sûr, tous ces gens-là sont tous de complot entre eux. Ils font tous du copinage ensemble. J'ai reçu vaguement des réponses en me disant « bah oui, je peux intervenir ».
Bon, mais là, on va être obligé de conclure, ouais. Gilles. Donc, du coup, en fait, vous en êtes où aujourd'hui dans dans cette procédure ? Est-ce que c'est terminé ?
Cette procédure, non. Ouais. Non, c'est terminé, oui, puisque j'ai quand même fait appel de cette décision. Donc, je vous ai dit, j'ai une procédure d'appel. Et là-dessus, quand j'étais à la rue, je me suis retrouvé à rester. J'avais mes véhicules devant l'immeuble et je me suis servi de mes véhicules comme.
Pour dormir.
Ouais, pour dormir.
D'accord.
En plus, je ne pouvais pas les déplacer. Ils sont venus me mettre dehors avec les forces de l'ordre. Je n'avais pas mes papiers. J'ai pas eu le temps de prendre mes papiers. J'ai pas été avisé ni rien. Le courrier qui m'a avisé, j'ai eu un laps de temps entre la période où le jugement a été prononcé. C'était la période où le Covid est tombé. Donc, il y a eu des souplesses au niveau des expulsions locatives. Il y a eu un battement d'un an. On m'a pas fait de problème, je suis resté dans l'appartement. Là, j'avais ma procédure en appel, donc l'avocat que j'avais sollicité il me dit qu'il avait entrepris de ses propres conclusions en me disant qu'il n'y avait pas lieu à cette expulsion. Donc je me suis maintenu dans les lieux, j'ai pas fait plus de démarches que ça. Derrière, si, j'avais cherché, puisqu'à l'époque, j'étais vu par beaucoup de monde, comme je vous dis, j'ai vu tout le monde, je crois, mais tous ces gens-là, ils sont. J'avais demandé à être relogé ailleurs, on m'avait répondu. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était, moi. Je découvrais ce que c'était un logement social. On parlait de logement social. Je ne m'étais jamais plus intéressé que ça, de comment que ça fonctionnait. C'est tous les tuteux qui encadrent ce jour-là, qui me disent, faites une demande de logement social. Donc, je m'étais engagé à faire cette demande, puisque j'y avais le droit. Je n'ai jamais eu de retour là-dessus, quoi.
Donc, aujourd'hui, vous vous retrouvez à la rue sans recours, finalement. Comment peut votre situation peut évoluer comment aujourd'hui ?
comment ? Ben, je continue à essayer de me battre et à faire valoir, parce que là, quand je vous dis qu'après j'ai subi des agressions physiques, puisque là j'ai commencé à dénoncer certaines choses, et puis là je subissais du harcèlement. Quand on a constaté que je vivais dans ma voiture et puis que je voyais comment ce qui se passait autour dans la cité qui se mettait en place. Donc là, j'ai cherché à me défendre en allant déposer les plaintes et tout ça. Donc là, j'étais pas vraiment entendu. Et ça a commencé à s'envenimer. Puis quand j'ai découvert et puis que je voyais ce qui se passait au niveau de ce qui s'installait dans la cité, comme partout ailleurs sur la ville ou ailleurs dans les autres villes, quoi. Et des personnes qui cherchent à s'approprier ces cités pour les transformer comme ailleurs en zone de non-droit, quoi. Donc ils décident, voilà, il y a un réseau qui se met en place, un réseau ou des réseaux. Et donc je me suis retrouvé un peu au milieu de ça, quoi. Là-dessus, je pense qu'il y a même eu des représailles vis-à-vis des signalements que j'ai faits, puisque j'ai cherché à me défendre. J'avais des plaintes qui étaient déposées contre les personnes qui s'étaient regroupées pour faire cette fameuse procédure envers ma personne. Je me suis retrouvé agressé par des personnes qui avaient un lien direct avec ces personnes-là. À ce jour, j'attends toujours d'avoir un retour de jugement là-dessus.
D'accord, vous habitez donc toujours dans votre voiture, dans la cité, en fait?
Non, ça a été pire que ça. Ils m'ont délogé de ma voiture. Ils ont cherché à me déloger de ma voiture. Oui. Le bailleur a récupéré, après la procédure d'appel, j'ai perdu ma procédure d'appel également. Parce que j'ai nouveau eu un problème avec l'avocat qui me suivait suite avec cette aide juridictionnelle là, qu'il avait demandé, et puis une provision que je lui avais versée, donc on tombait plus d'accord sur les honoraires. Je lui avais mis en avant que j'avais d'autres choses que je mettais en avant, que le bailleur m'avait fait suivre, des incohérences. Moi, j'avais fait des courriers entre-temps.
On peut plus rentrer dans les détails, là, Gilles. En fait, on est obligé de conclure. Donc, qu'est-ce qui peut se passer maintenant, en fait, là, pour vous? Qu'est-ce qui...
Maintenant, je cherche à... Il faut que je mette des procédures au pénal en place.
D'accord.
Et pour démontrer comme quoi il y a eu des malversations en dessous. La personne, quand je vous disais que je voulais intervenir, c'est ce que les problèmes qu'elle rencontre, c'est des affaires qui sont malmenées juridiquement, étouffées, des malversations. Le procureur, les plaintes au sein de la justice, il n'y a pas de suite. Le procureur ne donne pas réponse, il ne vous répond pas. C'est tout juste si quand vous le relancez, on vous communique un avis de classe et ensuite. J'ai eu des... Parce que là, j'ai eu une série de plaintes qui traînaient sur la période. Et tout ça, il n'y a rien qui...
Rien ne bouge.
Il n'y a rien qui n'aboutit. Ça n'aboutit pas.
Les plaintes pour les agressions que vous avez subies des réseaux de trafic, hein, finalement. C'est ça que vous avez été agressé par des gens qui organisent le trafic dans la cité.
Je vais pas être formel là-dessus. Je suppose certains... Il y a quand même eu une agression que j'ai subie, parce que ça a été jusqu'après... La personne dans ce cadre-là, ils ont été jusqu'à foutre le feu à ma voiture, à détruire ma voiture.
Oui.
J'ai des enregistrements, je vous dis, c'est phénoménal. C'est digne des émeutes qui s'est passé dans les banlieues. Attaque à l'artifice. Ils ont foutu le feu jusqu'au foutre le feu dans ma voiture. Et donc, j'ai été contraint de les faire enlever de la voie publique. Ce que je ne pouvais pas faire à l'époque, quand je vous disais que je n'avais pas mes papiers. Je n'avais aucun papier. J'étais en litige avec mon assurance, justement, suite à un précédent préjudice là, que j'avais avec le bailleur, qui n'était pas abouti non plus. Et du coup, oui, donc il y a une seule procédure qui est passée en jugement. Mais par contre, sur deux autres et trois autres agressions, je pense qu'il y a eu des malversations. La première agression, j'étais encore dans l'appartement à l'époque. J'avais pas déposé plainte tout de suite parce que je me suis dit oh là là, ça va encore me retomber dessus en me disant que c'est moi, que ça va être moi le problème. J'avais pas déposé plainte tout de suite. L'avocat, j'en ai quand même parlé à mon avocat qui me disait bon, écoutez, faut à vous de voir, mais si vous vous sentez victime, il faut le faire. Et puis il faut m'apporter ce dépôt de plainte. Je l'ai fait par la suite, j'ai refait des courriers par la suite que j'ai envoyé au procureur où j'ai fait cette demande de plainte puisque je m'étais rapproché de la gendarmerie pour le redemander à porter cette plainte, j'ai pas eu de retour derrière. On m'avait dit on va vous rappeler pour ça, j'ai pas eu de nouvelles. Donc j'ai écrit directement au procureur en lui disant, en joignant, mais j'avais été me faire soigner quand même, j'avais été aux urgences, j'avais un certificat médical. J'ai jamais eu de suite.
Bon, et en là, tout cas, ouais.
La deuxième agression que j'ai subie après, en 2020, au moment de mon expulsion, peu de temps après, je pense qu'il y a eu des machinations avec la première, des imbroglios, ils ont pris la procédure, ils l'ont envoyé à 1000 km en bas de la France pendant toute une période, pendant plus d'un an, tout ça pour vous faire jouer de la montre, et que cette procédure, parce que ça aurait fait du mal si ça avait apparu au sein de ma procédure d'appel. Quoi.
Bon, j'espère en tout cas que vous allez vous en sortir. Vous nous tiendrez au courant, bien évidemment, si les choses s'arrangent pour vous. Je suis obligé de vous quitter maintenant. Gilles, ben, courage à vous, et puis ne manquez pas de nous tenir au courant, bien évidemment, si les choses évoluent.
Un jour une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte quel sommeil en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'alléluia. Alléluia, Alléluia. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi.
Un accès extérieur sécurisé. Sinon, bonjour les dégâts, destruction, malpropreté, stress et propriétaire au bout du rouleau.
Peut-on quand même dire que ce sont de bons animaux de compagnie ?
Disons que ce sont des animaux de compagnie pour passionnés très avertis. Ce ne sont pas des chats comme les autres. Ils peuvent être très affectueux, très joueurs, très intelligents, mais aussi très exigeants. Il faut être prêt à adapter son mode de vie, son logement, son emploi du temps et surtout à respecter leur nature. Ce ne sont pas des chats de canapé, ce sont des chats avec une part de fauve en eux. Alors si vous rêvez d'un vrai félin et que vous êtes prêt à vous investir, pourquoi pas? Mais si vous cherchez un compagnon tranquille, ronronnant sur le canapé, mieux vaut peut-être adopter un bon vieux chat de gouttière. Il sera nettement plus adapté à ce que vous recherchez.
Ici. ICI.
Vous écoutez ICI.
Des jours sans et des jours avec, tout
t'es dans la tête. Y'a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Y'a des jours sans rire et sans soleil. Des jours où l'on comprend que tout ira plus mal que la veille. Des jours où l'on apprend. Y'a des jours sentiments mais sans plaisir. Des jours où l'on voudrait partir, sentir un peu d'amour et de douceur. Ces jours, je les connais par cœur. Y'a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête. Y'a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Y'a des jours sans et des jours qu'on aime. Des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes on devient plus grand. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Y a des jours où tout est possible, où tout devient facile. Des jours avec une bonne étoile, où rien ne pourra finir mal. Des jours avec mes deux gamins, à plus penser à rien. Des dimanches matins, des matins de plaisir, où on pourra dire. Y a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête. Y a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Y a des jours sans et des jours qu'on aime. Des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes on devient plus grand. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Et si le monde est beau, et si le monde est grand, ce sera un jour avec. Et si le ciel est gris et que le monde attend, ce sera un jour sans. Il y aura des gens aigris et des gens aimants. Là sous ma fenêtre, on fera mieux qu'hier et moins qu'aujourd'hui. Et toujours de l'avant. Il y a des jours sans et des jours avec. Des jours sans qui deviendront peut-être avec ou sans. Y a des jours sans et des jours qu'on aime avec ou sans. Tellement puissant face à nos problèmes avec ou sans.
Ici,
c'est ici.
Vous écoutez ici.
Ici.
2023, il y a 2 ans. Après la victoire de Toulon contre Castres, 52 à 23 hier soir en top 14 de rugby, le RCT, auteur de 6 essais en seconde période, rejoint l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale. Ce sera dans une semaine. L'autre demi-finale, Bayonne contre Toulouse, vendredi prochain, pendant que Perpignan se maintient en top 14. In extremis hier soir en battant Grenoble 13 à 11. Il est 3h33.
Minuit, 6h, c'est la nuit sur France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet.
Et bienvenue si vous nous rejoignez dans le studio de France Info ce soir. Rina Bassiste, correspondante à Paris pour la radio publique israélienne et le site américain Al Monitor. Vaijuna Ravane, correspondante indienne. Juan José Dorado, journaliste et correspondant à Paris pour plusieurs médias et journaux espagnols. Sylvain Kahn, professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po, spécialiste des questions européennes, auteur de nombreux livres. Le nouveau, L'Atlantisme est mort, pardon, Vive l'Europe, aux éditions de l'Aube. Continuons à parler de ces manifestations aujourd'hui en France pour la paix à Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien. Votre regard sur tout ce qui se passe sur ces mouvements aujourd'hui en France, Vaijuna Ravane.
Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui pensent qu'ils doivent s'engager quelque part, publiquement, dans ce conflit, prendre position. Surtout la guerre qui continue à Gaza, le nombre de victimes. Et ils disent vraiment ce que mon confrère a dit, que Netanyahou, quelque part, il a frappé maintenant parce qu'il se trouvait coincé. Sur la question de Gaza, il se trouvait coincé parce qu'on disait une 60 000 personnes qui sont mortes maintenant. Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que ça s'arrête? C'est quoi le but final de cette opération? Et puis, c'est de très mauvaise publicité pour l'Israël de trouver les gens qui vont chercher la nourriture, qui se font abattre constamment et tout le temps. Ça veut dire quoi? Quel est le projet? Même avec les frappes en Iran, est-ce que l'Israël va arriver à toucher les 400 grammes d'uranium enrichi que les Iraniens détiennent? Est-ce qu'ils l'ont caché quelque part tellement profondément que les missiles israéliens ne vont pas pouvoir les atteindre? Et est-ce qu'à ce moment-là, quelque part, les États-Unis vont entrer dans cette guerre? C'est ça la grande question et c'est ça qui préoccupe tout le monde. En Inde, je dois dire que la position pro-palestinienne qui existait il y a une quinzaine d'années n'y est plus. Et c'est parce qu'il y a un tel sentiment d'anti-islamisme qui a été vraiment soufflé par M. Modi, soutenu par M. Modi, que c'est des musulmans en Inde qui sont devenus l'ennemi. Et pour les Israéliens, quelque part aussi, c'est les musulmans qui sont devenus leur ennemi. Donc l'ennemi de mon ennemi est mon copain.
En un mot, avant de donner la parole à Sylvain.
Très intéressant, très court, parce qu'effectivement, il y a une sorte de relation, je ne sais pas, d'amitié, mais de proximité qui s'est développée entre M. Modi et M. Netanyahu ces dernières années. Il y a
une
photo extraordinaire quand M. Modi était en Israël, tous les deux pieds nus dans l'eau, ensemble, donc vraiment très, très proches. Et ce n'est pas par hasard que très peu après l'attaque de vendredi matin, le bureau de M. Netanyahu a sorti un petit communiqué disant qu'il est en train de parler avec des dirigeants du monde entier. Et c'est qui les trois dirigeants qu'il a signalés par les noms? C'était le chancelier allemand, c'était le président Macron et c'était M. Mondi.
Sylvain Kahn, c'était intéressant d'entendre Juan José Dorado parler de la situation espagnole, parce que c'est vrai qu'on se focalise souvent sur ce qui se passe en France avec un débat politisé. Comment ce dossier de la reconnaissance de l'État de Palestine, est-ce qu'on peut l'évaluer, le jauger à l'échelle européenne?
Oui, bien sûr, on le peut. C'est-à-dire qu'il faut partir de, historiquement, dans l'histoire très récente, il faut partir de la raison, des motivations ou des motifs pour lesquels il y a peu de pays européens, peu d'États européens, peu de gouvernements européens qui ont reconnu l'État de Palestine. Alors que, je le rappelais tout à l'heure, la position des Européens de manière officielle et constante depuis 1980 au moins, c'est de dire qu'il doit y avoir deux États. C'est-à-dire, c'est en fait la position de l'ONU, du plan de partage de la Palestine en 1947. Bon, voilà. Donc, pourquoi est-ce que dans les 40 pays dont parlait mon confrère espagnol tout à l'heure, il y a beaucoup de pays européens? Ben, c'est parce qu'il y a une situation objective au Proche-Orient, disons, où le Hamas, qui gouverne Gaza depuis près de 20 ans maintenant, ne reconnaît pas Israël, ne reconnaît pas le droit à l'existence d'Israël. Bon. Donc, il y a beaucoup, dans les diplomaties européennes, il y a une tradition consistant à dire, bien entendu, il faut qu'il y ait un État palestinien, nous sommes pour, mais pour ça, il faut avoir un interlocuteur palestinien qui soit dans une situation diplomatique de négociation où il reconnaît lui aussi le droit à l'existence d'Israël. Donc, alors, ça, c'est côté Hamas. Et là aussi, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que, comme vous l'avez rappelé, Victor, beaucoup de gouvernements européens ont tout de suite dit « Bon, ben, là, c'est un peu légitime. En fait, Israël se défend. » C'est parce que derrière le Hamas, comme derrière le Hezbollah, comme derrière les Houthis, il y a la République islamique d'Iran. Bon, donc, historiquement, c'est un peu comme ça que vous avez ce qui peut paraître paradoxal, à savoir une position où on dit deux États en paix avec des frontières sûres et garanties, et en même temps, très peu de pays européens qui officiellement reconnaissent dès à présent un État palestinien.
Avec la France, effectivement, on le disait, qui aurait pu le faire dès mercredi prochain. Nous avons parlé des conséquences de la situation au Proche-Orient, en Europe, sur les débats politiques aussi au regard de Gaza et de la Palestine. Parlons à présent de Donald Trump, qui doit affronter ce qui se passe sur la scène internationale et dans son pays, aux États-Unis. De grandes manifestations aujourd'hui dans le sillage des mobilisations réprimées en Californie, alors que le président américain organise une grande parade ce soir à Washington, le jour de ses 70 ans et pour le 250e anniversaire de l'armée US. Bonsoir Anne Desine.
Bonsoir.
Professeur des universités, spécialiste des États-Unis, auteur de ce livre « Les juges contre l'Amérique, la capture de la Cour suprême par la droite radicale », c'est aux éditions Presse universitaire de Nanterre. On assiste dans une certaine mesure aux limites déjà de la méthode Trump, 5 mois après son retour à la Maison-Blanche.
Il est vrai qu'il y a une conjonction de facteurs. Je crois qu'il a voulu le renforcement de sa politique d'immigration pour un petit peu changer le récit médiatique. Il aime bien être en contrôle. Et comme il avait des échecs partout, et en plus on l'avait surnommé Taco, celui qui se dégonfle à chaque fois sur les droits de douane, etc., et qui ne réussit pas à obtenir la paix ni à Gaza ni en Ukraine, il s'est dit « si je me montre fort sur l'immigration, cela ira mieux ». Si ce n'est que ça a suscité ce fameux sursaut du peuple que l'on attendait depuis des mois, je ne suis pas sûre que ce soit le sursaut des démocrates encore, mais de la société civile, des organisations, se produit. On attend, en même temps que son défilé si fantasmé pendant 10 ans, on attend 2000 manifestations dans toutes les villes des États-Unis. Alors, sur des sujets assez larges, beaucoup de slogans, c'est « no king ». Il faut se rappeler que les États-Unis ont été construits contre l'Angleterre, le pouvoir tyrannique du roi et du Parlement. Donc, ils ne veulent pas de roi. Ils ne veulent pas non plus de l'armée, qu'ils considèrent un danger pour les libertés lorsqu'elle est sur le territoire domestique. Mais il y aura certainement des manifestations, un regain pro-Gaza, par exemple. Et les démocrates, à la fois, peuvent surfer sur ce mouvement, mais c'est dangereux pour eux, car si les manifestations ont des thèmes trop variés comme l'abolition de cette police fédérale des frontières ICE et trop d'accent sur Gaza, l'administration Trump, la blogosphère de droite, va s'en emparer pour expliquer que les démocrates sont vraiment dangereux pour les États-Unis et pour la sécurité nationale. Mais en tout cas, beaucoup de choses, et il faudrait ajouter l'assassinat d'une élue du Minnesota, de son mari et de 2 autres qui sont blessés. Et pour moi, c'est vraiment le résultat de cette violence verbale permanente du président.
20h, 21h, les informés, Victor. Walter Matthes.
Nous informer de ce samedi soir, Rina Bastis, Vaijuna Ravané, Juan José Dorado et Sylvain Kahn. Anne Dessine est également toujours avec nous en ligne, professeur des universités et spécialiste des États-Unis. Avant le fil info, on parlait de cet élu local du Minnesota et son mari tué ce matin dans un acte de violence politique, d'après le gouverneur de l'État. Cette horrible violence politique ne sera pas déclarée, a déclaré de son côté Donald Trump. L'enquête est en cours, mais vous nous le disiez, pour vous, il faut faire un lien clairement entre ce drame et le climat politique extrêmement lourd aux États-Unis.
Bien sûr, cela fait 20 ans que les républicains ont utilisé un vocabulaire de guerre. On ne parle plus d'adversaires en parlant des démocrates, mais d'ennemis. Et Trump a ajouté considérablement à cette violence verbale. Il est responsable de ce qui s'est passé le 21 janvier 2021, l'insurrection du Capitole. Il est responsable lorsque des élus ont déjà été attaqués. Et là, il est clair, la personne qui est recherchée par la police, dans la voiture de police qu'il avait empruntée pour se faire passer pour un policier, on a trouvé la liste de 70 autres personnes qu'il envisageait, j'imagine, d'assassiner. Donc, la violence qui a toujours été une composante de la culture américaine est maintenant en premier plan, c'est un vrai danger. Et la façon dont le président a juste, comme d'habitude, fait « Ah, nous n'allons pas tolérer ceci », au lieu d'accepter, mais il n'est pas capable de faire ça, une certaine responsabilité, veut dire que la violence va continuer de croître.
Rina Bassiste.
Oui, je suis d'accord avec cette analyse. On a un peu le sentiment comme si la société civile américaine essaye un peu de se rattraper, parce que c'est le deuxième mandat du président Trump. Donc personne parmi les électeurs américains ne peut dire « je ne savais pas, on ne connaissait pas ses intentions, et on pensait que voilà, il n'y avait que des slogans, mais il ne va pas les faire ». On sait très bien, on a vu ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé en janvier 2021, tous les signaux étaient là-bas, toutes les intentions étaient déclarées, et les démocrates, malgré tout ça, malgré son premier mandat, ils ont échoué à la deuxième, à ces deuxièmes élections, et M. Trump a gagné une deuxième fois. Donc là,
mandat.
Comme les démocrates, ils ont échoué très clairement, là, il y a la société civile qui reprend un peu les flambeaux de cette bataille, trop tard. Et il y aura sûrement certaines qui vont le dire. Et on va voir dans les prochains jours, est-ce que peut-être cette société civile, ce mouvement qui est en train de se construire, peut-être là, ça va faire surgir d'une certaine façon des leaders qu'on ne trouve pas dans la partie démocrate, parce que la partie démocrate n'arrive toujours pas à faire face à Donald Trump.
C'est un scénario possible, ça, Anne Dessine?
Oui, les démocrates n'ont pas fait leur état des lieux, ils n'ont pas accepté leurs responsabilités. Ils sont très divisés entre la gauche qui considère que le programme était trop modéré et les modérés centristes qui considèrent que ce sont toutes les idées wokistes, les droits des LGBT, des transgenres qui ont fait capoter la campagne des démocrates. Tant qu'ils n'auront pas fait cette analyse, reconnu leurs responsabilités et surtout proposé des thèmes qui peuvent reconquérir la classe moyenne. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que la classe moyenne a davantage cru Donald Trump que les démocrates. Et ce n'est pas seulement la classe moyenne blanche, il a aussi gagné des Afro-Américains et des Hispaniques. Il y a cette prise de conscience à faire, elle n'a pas été faite. Alors, l'avantage là, c'est effectivement la société civile est très mobilisée. Bon, moi j'ai des tas d'amis qui sont juristes, qui sont dans les tribunaux en permanence, soit pour contester les décrets, soit pour aider les sans-papiers, etc. Mais il n'y a pas d'image politique. Je ne parle pas seulement d'un candidat. Les candidats à la présidentielle, ils émergent souvent très tard. Rappelons-nous Bill Clinton, inconnu, quelques mois avant, si j'ose dire, Obama, même chose. Mais il n'y a pas de thème fédérateur. Quand on regarde le site du Parti démocrate, par exemple, on voit qu'ils disent « Ah, on va protéger alors les femmes blanches, les femmes homosexuelles, les ceci, les cela, toutes les catégories de la planète, mais pas les hommes blancs. » Ça, c'est un vrai problème. Et rien sur la classe moyenne, rien. La grande force de Trump, c'est qu'il
a... Je vous redonne la parole juste après l'intervention de Juan José Dorado.
Oui, non. Ce que je voulais signaler tout simplement, c'est que il n'a pas effectivement arrêté la guerre en Ukraine, ni évité la guerre entre l'Iran et Israël, mais en même temps, il a réussi à surlever la société civile aux États-Unis. L'image qu'il renvoie aujourd'hui, quand on voit des milliers de gardes nationaux qui sont à Los Angeles ou de marines qui sont déployés, elle est néfaste pour les États-Unis à l'extérieur. Elle l'était déjà, c'est vrai, mais elle l'est encore plus aujourd'hui. Et n'oublions pas que de demain, il y a quand même, les yeux sont rivés sur les États-Unis, puisqu'il y a les mondiales des clubs qui commencent aux États-Unis, et notamment à Los Angeles, que c'est à Los Angeles que l'année prochaine va y avoir aussi le mondial des footballs, et puis dans trois ans, ça sera les Jeux Olympiques. Donc l'image que renvoie aujourd'hui Donald Trump avec ce qui se passe du côté des États-Unis et de Los Angeles est quand même désastreuse pour les mois et les années à venir.
Vous confirmez, Anne-Désine ?
Ah oui, complètement. Il a détruit l'économie des États-Unis, le rayonnement des États-Unis, la recherche américaine, la recherche des universités et du NHI, etc. Il a détruit le soft power. Et le plus grave, c'est que, par exemple, moi, je n'ai plus envie d'aller aux États-Unis. Là, je n'y suis pas retournée depuis l'élection parce que je n'ai pas envie d'être retenue 48 heures dans un centre de détention. Mes étudiants étrangers, je leur dis surtout, restez là-bas. Ne revenez pas parce que vous ne réussirez pas à partir. Et là, j'avais un de mes amis américains qui habite le Minnesota, donc qui part ce soir. Mm-hmm. Il sait, alors qu'il a toutes les choses pour faciliter.
Place I long.
Alive. You see before.
know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I know you were the one. I want a love to keep me going, baby. Very happy. Since you came, I know you were the one.